Le roman d'un brave homme, chapitre 7. Chacun pour tous. Le deuxième lundi du mois d'août, avant de nous distribuer nos prix, M. Lutzelmann profita de la circonstance, qui rassemblait sous des guirlandes de chêne, dans notre ancien dortoir, les autorités et les notables. Il donna d'abord la parole au professeur de seconde, qui, dans un discours très correct, sinon très neuf, fit l'apologie des études classiques et prouva, après beaucoup d'autres, que si elles laissent peu de choses utiles dans notre esprit, elles nous rompent au travail ingrat et nous apprennent à apprendre. Lorsque ce lieu commun eut été poliment applaudi par les élèves et leurs familles, l'Alsacien barbu se leva, dans son habit noir trop étroit et sa cravate blanche aux nœuds tout faits. Il n'avait pas de papier dans les mains, et les premières minutes de son improvisation nous semblèrent assez confuses. On put comprendre, avec beaucoup de bonne volonté, qu'il respectait l'ordre établi, qu'il tenait les programmes officiels pour choses sacrées, et que, mettant à part ses opinions personnelles sur l'efficacité de certains exercices, il ne ferait pas tort d'un vers latin aux 150 élèves du collège. Mais un travail de statistique, embrassant les 20 dernières années, prouvait que, dans la ville, 9 jeunes gens sur 10 arrêtaient leurs études après la classe de seconde. L'ambition du baccalauréat, l'attrait des brillantes carrières, avait beau les pousser vers le collège royal, ils étaient retenus par la dépense et la distance. L'enseignement classique ne portait donc ses fruits que pour une infime minorité. Le grand nombre restait en route et s'éparpillait à 15 ou 16 ans dans le commerce, l'industrie, la basoche, le notariat, la poste, les finances, la partie forestière, les bureaux de l'ingénieur ou de l'agent voyer. S'il était démontré que 135 élèves sur 150 n'auraient jamais d'autres leçons que celles du collège communal, le collège avait-il le droit de leur donner une instruction de luxe pur? Ne leur devait-il pas une certaine préparation à la vie? N'était-ce pas trahir un peu la confiance des familles que de leur rendre de grands garçons barbouillés de grec et de latin, mais ignorants de toutes choses? Ici, les applaudissements éclatèrent sur tous nos bancs. Les familles y mirent plus de réserve, car le latin et le grec étaient encore en grand crédit chez les estimables bourgeois, qui n'en savaient pas un seul mot. M. Lutzelmann s'efforça de rassurer son auditoire. Il affirma qu'un principal, voulût-il supprimer ou simplement réduire l'enseignement classique, n'en aurait ni le droit ni le moyen. Les programmes du ministère lui liaient les mains. Les professeurs de grammaire et d'humanité occupait un domaine sur lequel aucun empiètement n'était permis. On ne pouvait consacrer aux études pratiques, aux leçons de choses, que le temps des récréations. Il l'avait essayé, timidement, dans une mesure très restreinte, et l'expérience avait réussi, grâce au concours désintéressé de quelques bons citoyens. Il remercia publiquement M. André, M. Doussot, M. Maté, Monsieur Lequien, et jusqu'au père Michaud. Tous ces noms furent couverts d'applaudissements. On fit une ovation comique au vieux tambour de ville, qui rougissait comme une fillette et ne savait tout se cacher. L'orateur, enhardi par les bonnes dispositions de son public, démasqua résolument ses batteries. Il exposa qu'en dehors des récréations quotidiennes, dont il avait trouvé l'emploi, on pouvait encore utiliser une demi-journée par semaine. La promenade du jeudi était sotte, ennuyeuse et justement impopulaire. Il s'agissait non pas de l'abolir, mais de la diriger, et l'on pouvait la diriger de telle sorte que les externes voudraient tous se joindre aux pensionnaires, comme ils suivaient déjà pour la plupart les travaux des récréations. « Voyons, messieurs, » dit-il aux parents, que diriez-vous si l'an prochain, sans ajouter un centime au budget du collège, je donnais à vos fils 40 leçons supplémentaires, faites par 40 professeurs aussi savants dans leur partie et plus pratiques, assurément, que tous les docteurs de Sorbonne. Ne me regardez pas comme une victime de l'imagination. Ne cherchez point par quel miracle je ferai venir de Paris ou du chef-lieu tant de maîtres capables et dévoués. Ils sont ici, dans cette salle. Je les ai sous les yeux. Je pourrai les désigner tous. C'est vous, monsieur l'ingénieur, et vous, monsieur l'agent voyer, et vous, monsieur le conducteur des ponts et chaussées, qui promènerez ces enfants sur les routes, sur le bord du canal, sur les digues, et leur ferez la classe en plein air. C'est vous, monsieur l'inspecteur, vous, monsieur le garde général, vous, monsieur le brigadier, qui les introduirez l'été prochain dans ce splendide laboratoire de la nature qui s'appelle la forêt. Je suis sûr, monsieur Simoneau, que vous serez heureux d'offrir à nos élèves, devenus les vôtres, l'exemple d'une florissante industrie qui est la richesse et l'orgueil du pays. Je ne vois pas un fabricant, pas un marchand en gros ou en détail, pas un artisan, pas un des fermiers du faubourg qui ne soit prêt à enseigner, durant une demi-journée, les éléments de la profession qui le fait vivre. Une petite ville comme la nôtre n'est qu'une famille un peu agrandie. Chaque père s'y intéresse à tous les enfants et chaque enfant y respecte tous les pères. Si une génération d'hommes faits veut bien s'associer à nous pour instruire cette jeunesse, la circulation des idées deviendra plus large et plus rapide. Le choix d'un État ne sera plus affaire de hasard. Nous verrons naître des vocations raisonnées. Mais surtout, avant tout, l'esprit de solidarité nivellera les conditions, échauffera les cœurs, rapprochera jeunes et vieux, riches et pauvres. C'est l'idéal d'une société vraiment organisée. Le style n'était pas fameux, mais l'orateur avait la voix chaude, et sa bonne volonté se répandait autour de lui comme une heureuse et salutaire contagion. Toute l'assemblée écouta sans impatience le détail du programme, la distribution des travaux selon les saisons. Le boucher, le tanneur, le meunier, le boulanger, l'épicier, le cordonnier, le maçon, mon ami Basset, les travailleurs de tous étages sentirent bien qu'en leur demandant un petit service, on leur faisait un grand honneur, puisqu'il n'est pas de fonction plus haute que l'enseignement. On leur annonça que chacune des leçons du jeudi serait l'objet d'un travail écrit, avec ou sans épure explicative, que les rédactions devaient être corrigées et classées par le professeur d'un jour sous la surveillance du principal, et qu'au bout de l'année, la génération enseignante pourrait donner des prix aux élèves les plus méritants. Pour conclure gaiement, M. Lutzelmann présenta à nos futurs maîtres trois gaillards, longs, maigres, blonds, tondus jusqu'au cuir et criblés de taches de rousseur, en un mot, ses trois fils. « Faites pour mes enfants, dit-il, ce que je fais pour les vôtres, et tout sera pour le mieux dans la meilleure ville du monde. » On applaudit à faire crouler le dortoir, et notre cours de technologie, pardon du mot, fut ainsi décrété par la population. L'espérance d'apprendre un peu de tout et de devenir un homme complet comme mon père, avec quelque littérature en plus, me suivit à Launay et me tint l'esprit en éveil jusqu'à la rentrée. Je fis même deux ou trois fois le voyage de la ville pour causer avec le principal, dire bonjour à ses enfants et revoir un peu le collège. Rien de plus contraire à mes habitudes et à celles de tous les écoliers. Mais c'est que le collège, à mes yeux, n'était plus une prison. J'avais pris en grande amitié cette masure hospitalière, où j'étais sûre de retrouver ma chambre proprette, mon lit blanc, mes deux planches chargées de livres et l'appareil très primitif de mes ablutions matinales. Mon cœur se serrait à l'idée qu'il faudrait déloger dans un an et reprendre le collier de misère dans un internat rigoureux, loin de ma mère, de mon principal, de mes chers maîtres et de mes amis. Ce vieux collège, je l'aimais un peu moins que ma maison natale, mais beaucoup plus que notre nouveau logis. Les vacances de 1844 me parurent presque longues. Il faut dire que l'aunée était singulièrement attristée par la santé de mon grand-père. En 4 années de deuil, le pauvre homme était devenu tout à fait vieux. L'appétit, les forces, la vue, tout lui manquait à la fois. Maman la France le soignait en le querellant. Elle accusait la satanée politique de ronger le cher homme jusqu'aux os. Je n'ai jamais compris ce reproche, car mon grand-père était un causeur circonspect et un conservateur résolu. Il parlait avec une grande impartialité des 5 ou 6 régimes sous lesquels il avait vécu et ne s'échauffait jamais que contre la terreur, rouge ou blanche. Comme les 9/10 des paysans français, il aimait l'ordre d'abord, la liberté ensuite. Il était attaché à son lopin de terre et il respectait profondément la loi. Mais un sorcier n'aurait pas su vous dire s'il préférait ou la République ou la monarchie. « Il faut, nous disait-il quelquefois, s'attacher au gouvernement qu'on a, pourvu qu'il ne se rende pas insupportable. » La royauté constitutionnelle et libérale que Paris nous avait donnée en 1830 l'accommodait assez. Il estimait qu'avant la fin du siècle, ce régime de travail et d'épargne ramènerait la France à son rang. Aussi déplora-t-il, le 12 juillet 1842, la fin tragique du duc d'Orléans, qui remettait en question et l'avenir de la dynastie et le maintien des libertés publiques. J'avais eu un jour de congé à l'occasion de ce malheur, et naturellement j'avais couru tout joyeux à l'aunay. J'y fus reçu par un vieillard frappé qui se répandait en lamentations prophétiques. « Mes enfants, nous disait-il, cette journée coûtera cher au pays. Heureusement pour moi, je serai mort avant les révolutions et les guerres qui se préparent. Mais vous les verrez, vous, et je vous plains. » Son humeur s'assombrit à vue d'œil pendant les 2 années suivantes. Et lorsque, pendant les vacances de 1844, je lui lisais quelque article de journal sur l'indemnité Pritchard, ses pauvres yeux achevaient de s'éteindre dans les larmes. Les bulletins de nos victoires en Afrique, la bataille de l'Isly, le bombardement de Tanger, affichés coup sur coup, 2 jours de suite, à la porte de la mairie, l'irritaient au lieu de le consoler. Il s'écriait « Pourquoi donc jeter notre poudre aux sauvages? Ne vaudrait-il pas mieux la réserver pour les Anglais? Ah, l'étranger n'a pas dit son dernier mot. La France est un trop bon pays pour que ces gens-là renoncent à l'envahir. Jure-moi, mon petit Dumont, que si jamais ils passent la frontière, tu feras comme moi, tu prendras le fusil. » Je jurai tout ce qu'il voulut, sans grand effort ni grand mérite, car tous les enfants de mon âge avaient oublié nos défaites et ne supposaient pas que la patrie pût être remise en danger. Dans ces 2 mois, les derniers que je devais passer auprès de lui, il sembla prendre à tâche de récapituler tous les conseils qu'il m'avait donnés en ma vie. Il me recommandait d'honorer notre nom, comme s'il avait cru que j'étais seule à le porter après lui. Je remarquais qu'il me traitait moins en garçon de 16 ans qu'en futur chef de famille, plaçant sous ma protection d'écoliers mes oncles, mes cousins, ma mère et grand-maman elle-même. « Ne les perds pas de vue. Reste auprès d'eux autant que tu pourras. Ton pauvre père me remplacerait s'il était vivant. C'est à toi de remplacer ton père. » Je protestais quelquefois en pleurant contre cette espèce d'investiture. Je lui faisais remarquer qu'il n'avait pas 75 ans, qu'il était charpenté comme un chêne, que sa santé pourrait se rétablir s'il voulait seulement consulter un médecin. Il secouait la tête avec un sourire triste et répondait « Tu as raison de parler ainsi, mais je sais mon affaire. Ma besogne sera bientôt finie. et la tienne va commencer. » Ma grand-mère jugea que ces tête-à-tête n'étaient bons ni pour lui ni pour moi, car nous en sortions aussi attendris l'un que l'autre. Pour rompre un peu notre intimité, elle appela mes oncles et mes cousins à la rescousse. Il fallut même que ma mère invitât quelques amis de la ville. La vendange du petit carré de vigne, la cueillette des fruits dans le verger et le jardin d'en bas, une pêche aux écrevisses dans les prés du moulin, deux ou trois goûters en forêt, servirent de prétexte à ces réunions, qui animèrent un peu la seconde moitié de septembre. Mais bon vieux ne se mettait pas en frais. Une tarte de grand-maman, 5 ou 6 bouteilles de vin doux, un panier de poires, des noix, quelquefois un plat de saucisses ou un jambon apporté par les convives, nous régalaient abondamment. La promenade et l'air vif assaisonnaient le tout, et je rentrais, sinon très gai, du moins content de ma journée. Un jeudi, nous fûmes envahis par tous les Lutzelmann, petits et grands. Un dimanche, on vit arriver le gros Basset et la famille Bonafigue. Je présentai mon ami Jean au grand-père comme un futur défenseur du pays. Il voulait entrer à Saint-Cyr. Le vieillard le palpa plutôt qu'il ne le vit et le trouva solide. « Aimes-tu ton père ?» lui dit-il. « Oui, monsieur, de tout mon cœur. » « Et ta mère ?»« Assurément. » « Et ta petite sœur ?» « Vous n'en doutez pas. » »« Eh bien, il faut aimer ton pays plus que ton père, plus que ta mère, plus que ta sœur, plus que toi-même. C'est le grand secret pour bien vivre et pour bien mourir. Petit soldat, un volontaire de 92 te bénit au nom de la France. » L'enfant lui répondit avec gravité. « Monsieur, je suis touché du grand honneur que vous me faites, et je n'irai jamais au feu sans me rappeler vos paroles. » Cependant, Barbe était de cuisine. Elle aidait Catherine et ma grand-mère avec beaucoup de zèle et de dextérité. Sa petite voix de clairon, haute et brillante, ses yeux en feu, son esprit alerte et surtout le désir de plaire qui débordait pour ainsi dire autour d'elle, furent appréciés de tous. Après son départ, ma grand-mère déclara que cette petite serait d'une laideur irrésistible. Il me sembla que les deux mots juraient ensemble, et je répondis qu'une fille aussi laide que la petite Bonafigue avait beau se montrer spirituelle et bonne entre toutes, elle ne trouverait jamais de mari. J'étais d'autant moins disposée à la trouver passable que Basset, ce jour-là, s'était souvent gaussé d'elle et de moi. Il y a des moments dans la vie où, sans savoir pourquoi, l'on aime moins ses meilleurs et ses plus vieux amis. Notre ancien contremaître, en quelques heures, s'était donné 1000 torts à mes yeux. D'abord, il était venu à Launay sans être invité, ou du moins sur une invitation vague et assurément périmée, car elle datait de plus d'un an. Mais surtout, je le trouvais trop empressé auprès de ma mère, trop paternel avec moi, trop filial avec mes vieux parents, trop, que dirais-je encore, trop gai quand j'étais triste et trop consolé de la mort de son patron. Notre malheur l'avait enrichi. Il entreprenait de grands travaux. Il faisait de brillantes affaires. Il nous avait complètement désintéressés. Était-ce une raison pour étaler devant nous sa grosse joie et sa triomphante humeur ? Comment ce gros garçon que je n'allais jamais voir et que je ne rencontrais pas sans tristesse, car il me rappelait le passé, osait-il être heureux de se retrouver parmi nous? Il plaisantait, il riait, il se donnait des airs de vieil ami, poli sans doute et respectueux, mais familier avec la veuve de son maître. Je lui prouvais par ma froideur que mon père n'était pas encore oublié de sa famille, et que le nom d'un mort ne s'efface pas dans les cœurs comme sur l'enseigne d'une boutique. Le lendemain, j'étais encore outré de ces façons, au point que j'en fis presque une querelle à ma mère. Elle me répondit avec sa douceur accoutumée : « Je n'ai rien remarqué de nouveau chez ce brave garçon. Mais s'il te déplaît, c'est bien simple, nous ne le verrons plus. » Mon grand-père allait beaucoup mieux lorsque je retournais au collège. Notre séjour à Launay lui avait fait du bien. Et quoiqu'il levât les épaules chaque fois qu'on parlait d'appeler un médecin, nous ne désespérions pas de le sauver. Je trouvais M. Lutzelmann au milieu des maçons et des peintres. La rentrée avait été magnifique. Grâce au nouveau régime, et surtout, je suppose, à nos succès universitaires, le nombre des internes était doublé. Nous étions presque trop. Et les conversations instructives du déjeuner et du dîner seraient devenues impossibles si le principal n'avait fait deux tables. Il confia tous les petits à sa femme et à sa fille, qui en savaient assez l'une et l'autre pour les faire causer. Petits et grands furent admis en masse aux leçons du jeudi. Quoique les garçons de mon âge et au-dessus fussent seuls en état de les rédiger. On pensa que les enfants plus jeunes en retiendraient toujours quelque chose. D'ailleurs, le professeur d'un jour avait souvent parmi nous un fils de 10 à 12 ans qui connaissait le métier paternel et se faisait le moniteur de ses camarades. Le programme, étudié avec grand soin par notre principal, trouva un concours empressé chez tous les habitants de la ville. De la vieille devise égoïste « chacun pour soi », on passa pour ainsi dire sans transition à la formule de l'avenir « chacun pour tous ». Non seulement les industriels, les marchands, les cultivateurs nous enseignèrent ce qu'ils savaient, mais encore ils nous offrirent de grand cœur ce qu'ils avaient. Et la leçon se termina presque toujours par un joyeux goûter. Ainsi, l'ingénieur des ponts et chaussées qui nous donna la première leçon à l'écluse numéro 7 ne se borna point à faire la théorie des canaux, ni à nous expliquer les opérations très simples et très ingénieuses grâce auxquelles un bateau chargé jusqu'au bord descend ou monte sans secousse un étage de plusieurs mètres. Il nous prouva aussi que les canaux sont des étangs en long qui fournissent leur contingent à l'alimentation publique. Une énorme friture de perches et une matelote de brochets, de carpes, de tanches et d'anguilles furent les éléments très goûtés de cette démonstration. Le principal, sans perdre un coup de dent, ajouta que les canaux, un peu mieux cultivés en poissons, produirait 500 carpes marchandes à l'hectare. Il établit que le passage des bateaux détruisait incessamment le frais sur les bords et qu'on pourrait remédier à ce mal en créant çà et là quelques petits bassins d'alevinage. Et, comme il possédait à fond cette matière, il nous raconta les merveilles qu'il avait vues en Suisse et en Écosse, où l'on faisait éclore en chambre, pour ainsi dire, des poissons de grand prix, comme la truite et le saumon. Quelquefois, le digne homme qui nous ouvrait ses ateliers ou ses chantiers était parfaitement incapable de faire un exposé méthodique. Par exemple, M. Nicole, le gros carrier, nous conduisit au milieu de son exploitation et nous dit « Vous êtes à même, on tire la pierre et on la vend, ce n'est pas plus malin que ça. » Dans ces occasions, le principal donnait la leçon tout entière, sans se faire valoir, et en laissait le mérite à l'industriel. Par une suite de questions fort simples en apparence, mais très savamment ordonnées, il amenait cet homme à nous dire ce qu'il savait, et le laissait souvent émerveillé de lui-même. Souvent aussi, il le payait d'un renseignement ou d'un conseil. Le carrier se plaignait d'être tombé dans un de ses sondages sur un nid de cailloux noirs dont on ne ferait jamais rien. M. Lutzelmann lui apprit que ces galets avaient un prix, qu'on les recueillait avec soin sur les côtes de Normandie, entre le Havre et la baie de Somme, et qu'après avoir servi de lest au navire, ils se vendaient 25 francs la tonne aux faïenciers anglais. Or, les Anglais ne sont pas seuls à fabriquer des tasses et des pots. Lorsqu'à la fin d'octobre, le père Hanneau, fermier de la vieille ville, nous eut bien promenés au milieu de ses emblavures, nous revînmes chez lui pour manger des tartines de beurre ou de fromage blanc, au choix. Le fromage était bon et le beurre très médiocre. Madame Hanneau le faisait mal, comme toutes les femmes de notre pays, mais elle en était assez fière. Le principal lui en fit complément et s'informa du prix qu'elle en tirait sur le marché. « Mais 12 sous la livre, pas moins, mon bon monsieur, » répondit-elle. Il déclara que cela n'était pas payé, conta qu'il avait vu du beurre tout pareil, au moins comme apparence, se vendre couramment 2 francs en gros et beaucoup plus cher en détail. C'était en France, dans des départements où ni le climat ni la terre n'étaient meilleurs que chez nous. Et là, chose incroyable, il était admis en principe que la fermière devait payer le bail sur les produits de sa basse-cour et de sa laiterie, si bien que la récolte de l'homme, paille et grains, était tout profit. « Ah, ça, comment font-elles ? » demanda la bonne femme en ouvrant de grands yeux. « À peu près comme vous, seulement il y a un tour de main, pas bien difficile. Alors, avec le lait de mes vaches, on pourrait faire du beurre à 40 sous ?»« Approximativement, et du fromage à 30. » Après les avoir mis en appétit, il s'amusa à laisser leur curiosité en suspens et s'étendit longuement sur la révolution que les chemins de fer allaient porter dans les campagnes. Les locomotives arrivaient à Orléans, elles ne tarderaient pas à paraître chez nous. Alors, les produits de nos fermes s'en iraient au grand débouché qui est Paris. Paris est riche, il a bon appétit, mais c'est un gourmand connaisseur et qui sait compter. Il prendra tout ce qu'on lui enverra, mais il ne paiera pas un poulet maigre au prix d'un chapon de 6 livres. Et s'il accepte nos petits beurres, soyez sûr que ce sera au juste prix. » Tout en devisant de la sorte, il nous avait conduits à l'étable, où 12 vaches, fortes en croûté, n'avaient pas, tant s'en faut, la litière fraîche tous les jours. La laiterie était trop froide, quoiqu'elle manquât d'air et d'eau, et elle sentait l'aigre. La crème montait difficilement dans des pots longs et étroits. On écrémait le lait qu'après l'avoir laissé cailler. On battait 2 fois par semaine, la veille des marchés, au lieu de faire le beurre tous les jours. En résumé, le tour de main que la mère Anneau était si désireuse de connaître était le bouleversement complet de sa ferme et de ses habitudes. Elle le comprit vite, et d'un petit ton piqué, « Je ne me doutais pas, mon bon monsieur, que mon métier s'apprenait au collège. »« Eh bien, répondit-il, je vais mettre le comble à vos étonnements. Dans un pays du Nord qui est très grand, très beau, et peuplé des plus braves gens qui soient au monde, c'est la Suède. Il y a 2 collèges royaux où tous les fils de famille vont compléter leur éducation. On n'y enseigne absolument que la fabrication du beurre et du fromage. » Je rédigeais avec un zèle passionné ces leçons, qui, grâce à mon père, n'étaient jamais absolument nouvelles pour moi. 1001 souvenirs de mon heureuse enfance ressuscités dans mon esprit avec une substance plus solide et une forme plus précise. Il me fut donc aisé de prendre et de garder le premier rang dans cette classe professée par 40 notables qui tous étaient mes pères adoptifs, puisque depuis 5 ans, il me donnait le pain quotidien. Mon application à rendre compte des travaux de chacun, et peut-être aussi l'admiration naïve que j'exprimais pour des mérites assez modestes en soi, gagnèrent bien des cœurs. Je fus plus que l'enfant de la petite ville, j'en fus l'enfant gâté. Nous résumions nos observations du jeudi, le soir même ou le lendemain matin, dans un écrit de quelques pages que M. Lutzelmann expédiait dans sa primeur et sans le lire à la personne intéressée. 9 fois sur 10, l'industriel, l'agriculteur, le fonctionnaire, après avoir lu et classé nos copies, invitait le premier à déjeuner ou à dîner le dimanche suivant. Le premier, c'était moi, sauf de très rares exceptions. Si bien qu'au bout d'un certain temps, je fus un peu blasé sur les repas en ville. Mais les plus belles choses ont le pire destin, comme dit l'autre. Et lorsque M. Simoneau me fit mander par 2 vers lui, le 2e dimanche de juin 1845, ce ne fut ni pour me bourrer de confiture, ni pour me couronner de fleurs. 3 jours auparavant, il nous avait promenés, d'assez mauvaise grâce, d'un bout à l'autre de son établissement, sans nul souci de la logique, commençant par les produits manufacturés, finissant par les matières premières, et obstinément sourd aux observations très courtoises du principal. Un aveugle aurait vu que cet homme n'osait pas nous fermer sa porte, mais qu'il voulait nous renvoyer plus ignorants de son affaire que si nous n'étions pas entrés chez lui. Mes camarades en sortirent tellement ahuris que c'est à peine si 4 ou 5 ébauchèrent une description de quelques pages. Mais moi, qui connaissais la maison et qui m'étais préparé de longue main par des études minutieuses à ce que je considérais comme une œuvre de haute justice, je n'eus pour ainsi dire qu'à tirer de mes cartons un dossier aussi complet et aussi sévère que les fameux cahiers des états généraux. Le fabricant, la fabrication et le produit fabriqué, cette pauvre assiette à 5 sous, furent traités de la bonne sorte par l'implacable honnêteté de mes 17 ans. Les assiettes valaient moins que rien, modelées par le vieux procédé avec une mauvaise argile pétrie à coups de pied, elles étaient vêtues d'un détestable émail à base de plomb, que le vinaigre des salades attaquait au grand péril des consommateurs. Cette couverte se craquelait, les graisses de cuisine entraient dans la terre et lui communiquaient un incurable goût de graillon. L'usine était mal construite, insalubre et stupidement outillée. On n'y employait pas d'autres forces motrices que les bras et les jambes, ce qui était un crime de lèse-humanité. 200 infortunés de tout âge et de tout sexe y gagnaient strictement non pas de quoi vivre, mais de quoi souffrir et dépérir. Leur grève et leur révolte même me semblaient parfaitement légitimes. Je comparais le chiffre des salaires à la dépense minima d'une famille de 5 personnes, et je prouvais, ce qui n'est jamais difficile, que cette famille devait mourir de faim tous les 3 ans. Après avoir indiqué les réformes et les perfectionnements que rêvait ma jeune sagesse, mais que je n'espérais pas voir adoptées jamais par une direction routinière, je ne craignais point d'affirmer que les chemins de fer tueraient bientôt une industrie dont la prospérité n'avait pas d'autre base que la main-d'œuvre à vil prix. Et je terminai en disant « Produit net actuel, 100 000 francs par an, sauf coulage ». Ce chiffre, accrédité depuis longtemps dans l'opinion publique, n'était pas arbitraire à mes yeux. Il représentait exactement la différence du prix de revient, 2 francs, et du prix de vente, 3 francs, sur une fabrication annuelle de 100 000 douzaines. Et je ne l'affirmais pas sans malice, car M. Simoneau avait la rage de protester chaque fois qu'on lui disait « Vous qui gagnez 100 000 francs par an ». Je me présentais devant lui, aussi pâle et aussi résolu qu'un belluaire introduit dans la fosse aux lions. L'accueil qui m'était réservé ne pouvait faire aucun doute après ce que j'avais écrit. Quand on m'introduisit, il marchait à grandes enjambées autour d'un cabinet vaste et sévère où je vis du premier coup d'œil mon travail étalé sur le bureau. « Ah, vous voilà, » dit-il. « Ne m'avez-vous pas appelé ?»« Oui, et je suis bien aise de vous tenir. » En même temps, il s'avançait sur moi, les dents serrées, les poings crispés, le visage si dur et si menaçant que je songeais à me défendre. J'étais grand et solide, et une partie de pugilat avec un homme de 55 ans m'étonnait, sans m'intimider. Mais il croisa ses mains derrière le dos, et, plantant son regard dans mes yeux, il me dit d'une voix mordante. « Il paraît, monsieur, que vous êtes un observateur de profession. Je dis observateur pour parler poliment. » « Est-ce pour vous ou pour quelqu'un de mes concurrents que vous faites la police de mon usine ?»« Je ne vous connais pas de concurrent, et je ne crois pas que personne soit assez mal inspiré pour copier ce qu'on voit ici. Le principal m'a conduit chez vous, vous m'avez montré la fabrique, j'ai écrit ce que j'en pensais, pour moi d'abord, pour vous ensuite, si vous trouvez du bon dans mes avis. »« Vos avis sont impertinents et d'une méchanceté calculée. Ce n'est pas hier que vous avez pu ramasser à travers ma maison les éléments de ce pamphlet. Je crois bien, vous ne nous avez rien montré. D'ailleurs, le temps matériel vous eût manqué pour rédiger un tel volume. C'est une œuvre de longue haleine et qu'un blanc-bec de votre âge n'a pu élaborer à lui seul. Je vous jure que si. Ne jurez pas. Il y a des traîtres parmi mes employés. Mes ouvriers aussi m'ont donné des preuves de leur haine. Ne confondez pas la haine et la misère. Et s'ils ne gagnaient pas leur vie, viendraient-ils travailler ici? Est-ce que je les contrains? Sont-ils nègres? Et moi, suis-je un planteur de la Martinique? Leur métier est dur et malsain, et sans les payer plus cher, on pourrait... Oui, oui, les soulager par l'emploi des machines. Mais les machines coûtent cher, et qui me les paiera? Mais si l'on prenait seulement sur les bénéfices de l'année... Comment donc? Je n'y pensais pas. 100 000 francs de produits nets, sauf coulage. Hé, je vous ai bien lu. Jeune homme, vous savez bien des choses, on le dit, je le vois, mais il vous en reste beaucoup à apprendre. Croyez-moi, lorsque vous verrez un homme de 55 ans rester dans les affaires et travailler depuis 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, concluez hardiment qu'il n'a pas amassé 100 000 francs de rente. Et s'il garde pour lui sa fille de 25 ans, bonne, bien élevée et plutôt belle que l'aide, c'est qu'il n'a gagné ni 50, ni même 25 000 francs de rente. Eh, monsieur, je ne me mêle pas de vos affaires, et il ne m'appartient point de chercher quel placement vous avez fait. Je n'ai étudié que la fabrique, et j'ai simplement établi qu'elle gagne 100 000 francs par an. Les chiffres sont là. Allez vous promener, petit nigaud, avec vos chiffres. Il prit mon malheureux travail, le déchira en 100 morceaux et le foula aux pieds dans un accès de fureur. « Peu importe que la boutique gagne 100 000 francs si elle ne les gagne pas pour moi. Savez-vous ce que c'est qu'un fonds de roulement? Vous faites-vous quelque idée de la situation d'un industriel qui n'a pas cette pièce indispensable dans son outillage? Vous a-t-on expliqué au collège les rapports du fabricant et du banquier? Connaissez-vous les angoisses et les servitudes de l'échéance? Comprendrez-vous jamais qu'un homme, afin de conserver intact l'honneur de son nom, se condamne à travailler 30 ans pour enrichir un prêteur d'argent qui s'amuse? Le nègre, en pareil cas, ce n'est pas l'ouvrier, c'est moi. Il est sûr de toucher sa paye au bout de la quinzaine. Et moi, je ne sais pas au prix de quel sacrifice mon tyran, le prêteur, me fera acheter cet argent. Et les dépenses imprévues? Pour trouver 1 000 francs un jour férié, quand les bureaux de banque sont fermés. Voyez-vous ce puissant manufacturier, ce mortel envié de tous, courir en secret au chef-lieu du département et réveiller un usurier qui hésite à recevoir en nantissement une caisse d'argenterie? Si encore quelqu'un lui savait gré. Tenez, vous êtes un ingrat et vous n'avez pas même l'esprit de votre méchanceté. On n'aurait jamais dû vous laisser franchir cette porte. Depuis le temps que vous polissonnez chez moi avec les enfants Bonafigue, un homme moins confiant se fut mis sur ses gardes. Tant pis pour moi, le mal est fait. Mais morbleu, sortez vite, et que je ne vous y reprenne plus. Je me serais peut-être soulevé contre la haine et le mépris d'un homme froid, du Simoneau de tous les jours. Mais le spectacle de cet emportement inusité me calma. Jamais je ne m'étais senti plus maître de moi-même. Posément, je fis tête à ce furieux et je lui dis, avec un flegme assez méritoire chez un collégien de seconde, « Pardon, monsieur, je croyais que mon père m'avait gagné mes entrées à la fabrique. » Il recula vivement, comme s'il avait marché sur une queue de serpent, et se mit à balbutier « Votre père? Dumont, c'était un honnête homme. » « Pas plus honnête que moi, monsieur Simoneau, et pas plus honnête que vous, quoique vous ne me parliez guère honnêtement depuis un quart d'heure. On se trompe les uns sur les autres, et les plus mal jugés sont les silencieux et les renfermés, comme vous. Vous me croyez méchant contre l'opinion générale. Moi, contre l'opinion générale, je vous crois, je vous sais, bon. » Ce n'est pas parce que vous venez de m'ouvrir un jour nouveau sur l'état de vos finances, ni même parce que vous m'avez expliqué, à demi-mot, une bonne action mal comprise et mal accueillie en son temps. C'est parce que je vous ai vu pleurer, seul, dans un petit coin, après l'enterrement de mon père, quand la ville entière disait que vous manquiez de cœur. Vous aviez un visage vraiment bon ce jour-là, dans la ruelle des Jardins. Et je l'ai revu tout à l'heure, comme dans un éclair, quand vous avez nommé ce malheureux Dumont, mort chez vous. Et maintenant que la glace est rompue, laissez-moi expliquer et excuser à vos yeux ce travail qui vous a jeté hors des gonds. C'est pour vous seul que je l'ai écrit. Nul que vous ne l'a lu. Et maintenant qu'il est déchiré, personne ne le lira. Vous seul, après avoir fait justice des erreurs qu'il contenait, pourriez tirer parti des idées saines que je crois y avoir indiquées. Je suis un critique assez neuf, mais désintéressé s'il en fut. Vous connaissez mon passé, mon présent et mon avenir. En octobre prochain, je quitterai la ville pour entrer au Collège Royal. Dans 3 ans, je serai élève de l'École Polytechnique, et dans 5 ans, ingénieur ou officier. Mes affaires n'auront donc jamais rien à démêler avec les vôtres. Vous le savez, vous m'estimez au fond. Et la preuve, c'est qu'en m'accablant de gros mots, ici même, vous m'avez livré noblement le secret de votre crédit. Il sera bien gardé, n'ayez pas peur. Personne ne conspire contre vous. Ni mes amis les Bonafigues, ni les employés, ni les autres travailleurs de la fabrique. Je comprends que vous n'aimiez pas les ouvriers lorsqu'ils ont la prétention de partager avec vous les bénéfices que vous n'avez pas encaissés. Mais vous devez comprendre aussi que je les aime, puisque mon père en était un, puisque mes oncles en sont tous, puisqu'enfin l'ouvrier et le paysan sont à mes yeux les sauvageons robustes sur lesquels on greffera toujours le savant, l'artiste et le bourgeois. Les réformes qui vous ont déplu dans mon petit travail, les utopies qui vous ont choqué, les progrès qui vous ont paru impossibles, et la rhétorique un peu juvénile qui broche sur le tout, ont leur principe dans une profonde sympathie pour les déshérités de ce monde, ou plus correctement, pour ceux qui n'ont pas hérité. Rappelez-vous, monsieur, le sacrifice de mon père, et laissez-moi vous dire ici, sur son dernier champ de bataille, que ses conseils et ses exemples sont ma loi. Je m'étais animé. Mon cœur battait violemment, et chacune de mes paroles produisait comme un bourdonnement dans mes oreilles. Monsieur Simoneau, debout sur ses longues jambes, m'écoutait sans perdre un seul mot, mais sans laisser paraître aucune émotion. S'il eût été un homme semblable aux autres, si, frappé de ma sincérité et confus de son injustice, il m'eût tendu les bras, je lui aurais sauté au cou. Mais par malheur, il n'avait pas de premier mouvement, si ce n'est quelquefois un mouvement de colère. Il me demanda, comme un juge, « Avez-vous quelque chose à ajouter ?»« Et que vous dirais-je de plus ?»« Vous connaissez le fils Poulard ?»« Oui, monsieur, c'est mon camarade et mon ami. »« N'avez-vous pas été reçu dans sa famille ?»« On m'y a invité une fois, mais je me suis excusé. » »« Bien, je réfléchirai. » J'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mes idées. Si je reconnais, après mûr examen, que j'ai été injuste envers vous, je vous le ferai savoir. C'est aujourd'hui jour de congé. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, loin de madame votre mère. » Là-dessus, il m'ouvrit la porte. Je ne pus m'empêcher de dire en sortant « Quel animal !» Eh bien, j'avais tort, car il vint, 15 jours après, me chercher dans la cour du collège. Nous faisions l'exercice avec de vrais fusils, offerts par notre député. Il attendit la fin, me fit signe de venir à lui, et, me prenant amicalement par le bras, « Mon jeune ami, dit-il, pour qu'un homme de mon âge apporte des excuses à un garçon du vôtre, il faut qu'il ait un tort bien manifeste à réparer. Oubliez tout ce que je vous ai dit l'autre jour, et n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Si quelque événement imprévu traverse votre carrière, si par exemple vous échouez dans un concours, ce qui peut arriver au meilleur sujet, venez frapper à la fabrique. vous y trouverez un emploi honorable de vos jeunes talents et tous les égards qui sont dus à votre caractère. Pas de remerciements. Touchez-la. » Sa voix tremblait. Il avait mis le temps à s'émouvoir, mais positivement, il était ému. Moi, en revanche, je ne l'étais pas du tout. Je faillis pouffer de rire à l'idée de fabriquer des assiettes de pacotille sous les auspices du vieux Simoneau. Chapitre 8. Les devoirs imprévus. Mon pauvre père m'avait dit 100 fois que la volonté de l'homme est plus forte que les événements. Je reconnus bientôt qu'il exagérait notre empire, car ma vocation elle-même dut s'incliner devant la force irrésistible des choses. L'année scolaire allait finir, il ne me restait plus qu'à recevoir une demi-douzaine de couronnes auxquelles j'attachais peu de prix, comme tous ceux qui triomphent sans gloire, quand ma mère vint me chercher un matin. Elle était en grand deuil, comme toujours, mais elle avait les yeux plus rouges qu'à l'ordinaire, et après m'avoir fait endosser mon meilleur uniforme, elle noua un crêpe à mon bras. Grand-papa La France était mort, en pleine guérison, avec ses yeux, avec ses forces, quand tout le monde autour de lui recommençait à croire qu'il vivrait 100 ans. Lui seul ne s'était fait aucune illusion, et on le vit assez quand on apprit que ce vieillard, étrange jusqu'au bout, avait raboté et cloué son cercueil chez le menuisier du village, poli la dalle de son tombeau, gravé son épitaphe et, dans un terrain de son choix, creusé sa fosse lui-même. Aux deux artisans qu'il honora de sa confiance, il expliquait gaiement qu'il avait toujours travaillé la pierre et le bois à son usage personnel et qu'un homme logique finit sa vie comme il l'a commencé. Et le petit l'huilier, fossoyeur communal, raconta que M. Dumont, en lui donnant la pièce, lui avait dit « J'ai l'habitude de regarder la mort en face. » L'apoplexie qu'il attendait de pied ferme et qu'il voyait venir ne lui fit pas faux bon. Il mourut d'un coup sec, comme le soldat frappé d'une balle. C'était ce qu'il avait toujours rêvé. Notre famille et la population du village nous attendaient, ma mère et moi, au seuil de la maison mortuaire. La bière était posée sous les fenêtres, à la place où le grand vieillard s'asseyait tous les soirs d'été avec sa femme et s'allongeait quelquefois sans elle. Maman La France n'était pas assise dans son fauteuil, comme une veuve des grandes villes. Elle allait et venait en tous sens, plus agitée et plus véhémente que jamais. Sa douleur, sincère et profonde à coup sûr, semblait faite d'étonnement et de colère. Du plus loin qu'elle vit ma mère, elle lui cria « Eh bien, ma fille, que vous semble de ce dernier trait ? Hélas, il ne m'en a jamais fait d'autre. Je lui avais pardonné sa dernière escapade. Il m'avait bien promis de ne plus me laisser seule, et voilà. » La dernière escapade, c'était apparemment la campagne de 1814. Elle était pardonnée après plus de 30 ans, mais non pas oubliée. Rien de plus singulier que les regards à la fois lamentables et furieux dont la pauvre petite vieille criblait la bière de son mari. Elle ne s'en approchait pas sans invectiver à demi-mot ce déserteur du toit conjugal, ce relapse, cet incorrigible, ce vieux dissimulé, qui, se sentant mourir, avait fait part de ce secret à tout le monde, sauf à sa femme. Mais à chaque moment, l'aigreur de cette querelle posthume était tempérée par des cris de tendresse et des sanglots de désespoir. Comme j'étais un citadin, et même, par mes succès du collège, une façon de petit personnage, les excentricités publiques de grand-maman m'inquiétaient d'abord un peu. Je craignis pour la gravité de la cérémonie. Mais le monde est meilleur que l'on ne croit, car non seulement les amis de la famille, mais les indifférents, les simples curieux de Launay et des villages voisins, eurent le bon goût de fermer leurs yeux et leurs oreilles à tout ce qui pouvait les étonner un peu. Personne ne voulut voir que l'amour d'une pauvre petite vieille pour son défunt et le deuil d'une honnête famille privée de son chef. Un cortège d'anciens soldats affublé d'uniformes grotesques et accouru spontanément pour rendre hommage aux vieux patriotes, eût peut-être semblé risible dans les rues de la ville. Il fit pleurer toute la population de Launay. Le temps a effacé plus d'une fois l'épitaphe que mon grand-père avait gravée lui-même sur une dalle de pierre blanche, mais j'ai toujours pris soin de la rétablir, sans même en corriger les fautes. Si J. Pierre Dumont, volontaire de 1792 et de 1814, il a fait souche de braves gens qui feront leur devoir aussi. Vive la France! La lecture assidue de quelques livres bien choisis, en comblant les lacunes de son éducation, lui avait appris l'orthographe. Il écrivait assez correctement sa langue, et ce n'est pas, je crois, par ignorance qu'il avait gravé « Feron ONS » pour « Feron ONT ». La chose est d'autant plus vraisemblable que dans son testament, ouvert après les funérailles, je lis « Mes enfants feront, ONT, bien, quoiqu'ils ne soient pas tous à l'aise, d'abandonner à leur mère le revenu du petit capital que je laisse en mourant. » Pourquoi un écrivain si correct sur le papier l'était-il si peu sur la pierre? Le solécisme, dont on parle encore à l'école primaire de Launay, est-il de pure inadvertance ou faut-il y chercher une arrière-pensée de l'auteur? Quant à moi, j'ai pris mon parti. Et dût-on accuser mon cœur d'enfantillage et mon imagination de subtilité ridicule, je maintiendrais que grand-papa la France, lorsqu'il nous rappelait nos devoirs envers le pays, s'associait à nous et s'engageait pour ainsi dire à combattre le bon combat au milieu de ses fils et de ses petits-fils. La solidarité des Français, qu'il avait toujours proclamée, et l'esprit de famille qui frémissait de la tête aux pieds dans ses vieux os sont responsables de ce péché bien véniel. À tort ou à raison, je me suis figuré que le vieux cheikh, le grand cacique des Dumont, en écrivant son épitaphe, me donnait rendez-vous sur le champ de bataille pour la première invasion. Si je me suis trompé, cette erreur m'a coûté assez cher pour qu'on me la pardonne. D'ailleurs, je ne la regrette pas. Le testament holographe emplissait à peine une page de papier timbré. Cependant, il était plus long que je ne l'aurais cru. Après avoir révélé la vente de son petit domaine à un marchand de biens, sous réserve de moitié de la maison et de tout le jardin d'à côté, dont grand-maman gardait la jouissance à vie, mon grand-père m'interpellait directement et m'imposait, à moi, mineur, les devoirs d'un chef de famille. Ce n'était pas la première fois qu'il me parlait ainsi, mais la solennité de l'acte et du moment centupla mon émotion. Je me sentis ployé sous un fardeau trop lourd pour mes épaules, et la tâche qui s'imposait à moi me parut d'autant plus rude que tous les habitants de Launay trouvaient ma pauvre maman très changée. Les uns lui demandaient « Avez-vous donc été malade ?» Les autres lui disaient « Reposez-vous ou soignez-vous » Deux ou trois vieux amis me crièrent à brûle-pourpoint « Garçon, ne donne pas de soucis à ta mère !» C'était elle qui m'en donnait, la chère femme, et pour la première fois de sa vie. J'avais pris la douce habitude de l'admirer autant que je l'aimais. Elle était à mes yeux aussi jeune, aussi belle et aussi florissante qu'au jour de son bonheur et de notre prospérité. Il ne fallut rien moins que ce cri du village, ce rude avertissement d'un petit peuple inhabile à mentir, pour éveiller mon attention et me montrer la pauvre créature telle que la solitude et la douleur l'avaient faite. Oui, vraiment, elle languissait. Son buste amaigri semblait ployé sous le poids d'un fardeau invisible. Sa voix était légèrement voilée, sa respiration était courte, ses forces s'épuisaient au plus léger effort. Moi qui baisais ses mains à tout propos, comment n'avais-je pas remarqué qu'elle prenait un ton de cire? Si les lignes de son visage étaient aussi pures que jamais, le teint avait changé. La couleur était celle d'une plante étiolée. À l'étonnement douloureux qui suivit cette découverte, il se mêlait en moi je ne sais quel sentiment de remords. Je savais bien que je n'étais pas un mauvais fils, j'étais sûre de mon cœur. Mais suffit-il d'aimer? Avais-je pris assez de soin de cette femme, dont j'étais le seul protecteur et l'unique gardien? Ses grands yeux, qui semblaient regarder au-delà du monde, ne protestaient-ils pas contre le vide de la maison, l'absence de la famille, les travaux et les distractions égoïstes du fils? Et j'étais sur le point de la laisser plus seule encore. En octobre prochain, pour obéir aux volontés de mon père, je devais commencer un exil de 8 ans au Bas-Mot, entrecoupé de courtes vacances. 3 ans au Collège Royal, si j'étais reçue à l'école après une seule année de mathématiques spéciales, 2 ans à l'école polytechnique, 3 ans à l'école des Ponts et Chaussées. Tel était le minimum de nos peines, c'est-à-dire de notre séparation, dans l'hypothèse du succès invariable et du triomphe continu. Les organisateurs de nos grandes écoles n'étaient point apparemment des cœurs tendres, ou ils ont prévu tous les cas, sauf le mien. Or, n'oubliez pas que j'étais un privilégié, car l'adoption de ma ville natale, mon travail personnel et quelques dons de la nature me permettaient d'accomplir ce long voyage sans bourse déliée. « Il est né coiffé, ce jeune homme !» disait le sous-préfet de Courcy. Si tout lui réussit comme par le passé, à l'âge de 25 ans, il sera ingénieur de 3e classe, sans avoir rien coûté à la bonne Madame Dumont. J'étais sincèrement de cet avis. Lorsqu'on me fit comprendre, à demi-mot, qu'une séparation de 8 ans pourrait coûter à ma mère autre chose que son argent. À l'idée qu'elle pouvait mourir à mon absence et par ma faute, je reculais, épouvanté, comme le voyageur qui, marchant en toute sécurité sur une route royale, trouve un pont brisé par l'orage et voit l'abîme ouvert à ses pieds. Avant tout, je voulus avoir le cœur net et savoir s'il y avait péril en la demeure. Rien ne nous retenait plus à Launay. Ma grand-mère, après tant d'émotions, avait besoin de solitude et de repos. Elle ne s'en cachait pas. Et si elle insistait pour me garder 2 mois de suite comme autrefois, c'était évidemment affaire de forme. Les volontés du mort, ratifiées par tous les vivants, éludaient les froides horreurs d'une vente et les petites turpitudes d'un partage. Quand on nous eut distribué quelques menus souvenirs, dont notre affection faisait tout le prix, il ne nous resta plus qu'à prendre un filial et respectueux congé. Chacun sentait que la pauvre maman, la France, avec ses 600 francs de rente, sa moitié de maison et son bout de jardin, entrait dans une vie plus retirée et plus étroite que jamais, sous la garde, peut-être un peu intéressée, mais vigilante et sûre, de l'oncle et de la tante Joseph. J'embrassais tristement mes cousins et cousines, qui n'étaient guère moins découragés. Il nous semblait à tous que nous allions rouler dans tous les sens, chacun pour soi, comme les grains d'un collier dont le fil s'est rompu. Quant à moi, ce Launay que j'avais tant aimé n'était plus qu'un village à moitié désert, un commencement de ruine, depuis que le vieux chef de la famille ne m'y tendait plus ses grands bras. En rentrant à la ville, je trouvai chez ma mère une lettre de Basset. Notre ancien contremaître ne m'appelait plus « petit patron » et il me disait « vous ». Mon cher Pierre, il y a bien longtemps que nous ne nous sommes vus, et les démarches que j'ai faites pour vous rencontrer ont été plus malheureuses que de raison. Cependant, il est impossible que nous soyons des étrangers l'un pour l'autre, puisque vous êtes le fils de l'homme à qui je dois tout. La mort de votre regretté grand-père, votre prochain départ et d'autres circonstances encore me font une nécessité de causer avec vous en présence de Madame Dumont. J'espère que vous ne me refuserez ni l'un ni l'autre, une faveur dont je ne me suis pas rendu indigne, et je vous prie de croire, mon cher Pierre, à mon inaltérable amitié. J. Basset. Tout cela était si bien dit et si bien pensé qu'en lisant le billet, je fus presque honteux de moi-même. les meilleurs souvenirs de mon enfance se réveillèrent un moment. Je me rappelais les bons offices, les bons conseils et les bons procédés de cet honnête ouvrier. Son dévouement à mon père, l'estime que mes parents avaient toujours professée pour lui. Je me reprochais durement ma sotte bouderie et le caprice inexcusable qui, depuis si longtemps, tenait ce vieil ami à l'écart. Bref, je cédais à l'impulsion de mon cœur et, sans prendre avis de personne, je répondis « Arrive quand tu voudras, mon cher Basset, et tu seras reçu à bras ouverts. » Catherine était déjà loin avec cet autographe dans la poche de son tablier lorsque je contai l'aventure à ma mère. Elle prit un air sérieux et, sans blâmer ma précipitation, elle demanda pourquoi je n'étais pas allée tout simplement causer avec Basset chez lui. Rien n'indiquait la nécessité d'une intervention féminine dans un entretien dont le ton serait assurément amical. « Sa place n'était pas entre nous, » disait-elle. Je sentis qu'elle était sur le point de rappeler les causes de ma brusque rupture avec Basset, mais elle tourna court et se mit à parler de choses indifférentes. Moi qui la connaissais assez pour entendre ce qu'elle ne disait pas, je fis un mouvement pour courir après ma lettre, et si j'arrivais trop tard, pour décommander le rendez-vous. La pauvre femme m'arrêta. « Ce qui est fait, » dit-elle avec son pâle sourire. « On ne gagne rien à retarder les explications nécessaires. J'ai lu, je ne sais où, qu'en certaines affaires, le moins prévoyant est toujours le plus sage. Tu as peut-être été un profond politique sans le savoir. » Elle parla longtemps ainsi, à demi-mot, avec une verve fébrile, répondant à mes questions par des phrases en l'air et riant d'un rire forcé chaque fois que les larmes semblaient monter à mes yeux. L'irritation de ses nerfs gagnait les miens par sympathie. Je la voyais souffrir, et pourtant j'étais plus tentée de la quereller que de la plaindre. Durant cette heure abominablement longue, mon instinct de fils aimant et jaloux observa en elle comme une éclipse de maternité. Elle n'était que femme, et la plus inquiète, la plus capricieuse, la plus inexplicable des femmes. Cependant, Catherine ne rentrait pas. Elle avait eu 10 fois le temps d'aller et de venir, car le nouveau chantier de Basset était à quelques minutes de chez nous. Mais elle s'oubliait à causer avec des commères, ou elle était tombée dans quelque piège de celui qui voulait arriver avant elle et qui la devança en effet. Il sonna, j'allai lui ouvrir, et il m'embrassa sur les 2 joues pour entrer en matière. « Mon cher Pierrot, je te trouve enfin. C'est un beau jour. Serviteur, madame Dumont, c'est un beau jour, un bien beau jour. » Tout en répétant ce refrain d'opéra comique, il prit place dans notre humble salon, déposa sur le guéridon son chapeau neuf à coiffe blanche, ramena sur ses genoux les 2 pans d'une magnifique redingote et tira ses manchettes sur une paire de gants gris-perle très correcte. Ma mère souriait discrètement et semblait avoir retrouvé un beau calme. Ses mains de cire tremblaient un peu, voilà tout. Elle échangea avec aisance les banalités qui préludent aux conversations les plus sérieuses ou les plus frivoles indistinctement. Puis, sans émotion apparente, elle dit à l'ancien contremaître, devenu gros entrepreneur, « Monsieur Basset, Pierre vous a répondu sur le champ, sans même me consulter, parce qu'il s'agissait d'affaires urgentes. »« Urgentes, si l'on veut, madame Dumont, c'est plus ou moins pressé, selon les personnes. Mais comme l'enfant doit partir un de ces jours et vous laisser seul à Courcy, j'ai pensé, j'ai cru convenable, d'autant que Pierre est mon seul héritier. » À ce mot imprévu, la moutarde me monta au nez et j'interrompis brusquement. « À quel propos et de quel droit, monsieur, vous faites-vous de ma famille? Je n'ai besoin de rien, ni de personne. » Il répondit avec une douceur qui n'était pas sans autorité. « Tu as tort, mon enfant, de me couper la parole. Écoute bien d'abord. Il sera toujours temps de te fâcher, quand tu sauras. La destinée, mon petit Pierre, m'a fait riche à tes dépens. Un terrain que ta mère m'avait vendu pour un morceau de pain a été exproprié par le chemin de fer. J'en ai tiré 100 000 francs, écus sonnants. J'ai doublé la somme en vendant des traverses à la compagnie. Quelques coupes de bois, achetées par ton pauvre père et comprises dans son fonds de commerce, ont été la base de cette opération. Grâce à ton père, tu m'entends bien, j'ai pu me rendre adjudicataire de tous les travaux de charpente, non seulement à la gare de Courcy, mais dans 14 stations de la ligne, sans préjudice du travail courant, qui va bien. Je n'ai ni associé ni créancier. Le crédit s'offrait à moi, je lui ai tiré ma révérence, il coûtait trop cher. Mes marchés sont passés de telle sorte qu'avant 5 ans, quoi qu'il advienne, j'aurai le million tout rond, et je serai un des plus gros messieurs de l'arrondissement. Le faïencier, le marchand de cochons et le banquier lui-même, M. Poulard, gros comme le bras, me traiteront d'égal à égal quand il m'arrivera de les aborder dans la rue. Mais je ne me fais pas illusion. Je sais que tout ce bien, né et à naître, ne m'appartient que par un coup du sort, au détriment de mon patron et de sa famille. Si M. Dumont ne s'était pas sacrifié dans l'incendie de la fabrique, c'est lui qui serait riche aujourd'hui. Il le serait bien plus que moi, Madame Dumont, car il avait à ses côtés la plus entendue, la plus sage et la plus économe des femmes. Tandis que je suis un vieux célibataire, sans ménage et sans conseil. » Ma mère fit un mouvement. Il l'arrêta tout net et répondit d'avance à ce qu'elle allait dire. « J'entends. Mariez-vous. » « Ce n'est pas, je vous jure, l'occasion qui m'a manqué. On m'a offert de bons partis, les meilleurs de la ville et des environs. Mais comment aurais-je eu le cœur de partager avec Colette ou Jacqueline une prospérité qui, en bonne justice, vous appartient plutôt qu'à moi? C'est avec vous, Madame Dumont, et avec le fils de mon ancien patron, que je voudrais tout mettre en commun, conformément aux lois. Si vous pensiez jamais que 15 ans de respect, de dévouement et de sincère amitié m'ont rendu digne d'une si honorable et si heureuse alliance. « Ah, ça !» m'écriai-je en bondissant. « C'est une demande en mariage ?»« Et quand il serait vrai ?» reprit sévèrement ma mère. « Ce serait à moi de répondre. Tais-toi !» Elle se tourna vers Basset, et d'un ton de sérénité parfaite, en pesant avec soin chacune de ses paroles, elle lui dit « Mon ami, sans approuver entièrement le détour que vous avez pris pour arriver à cet entretien, je suis bien aise de vous avoir entendu et de pouvoir vous répondre devant mon fils. Aussi bien, vous abusiez un peu du droit de circuler dans la ville haute, et depuis quelques mois, je vous rencontrais sur mon chemin plus souvent qu'il n'est d'usage et de raison. Je n'ai jamais pris en mauvaise part ces assiduités, dont le but ne pouvait être qu'honorable, étant donné votre caractère et le mien. J'étais sûre qu'un jour vous vous déclareriez, et je vous remercie de l'avoir fait en présence de mon fils. » Pierre, qu'un tel événement avait pris au dépourvu, a frémi à la seule idée de voir un autre homme prendre chez nous la place de son père. Il est jeune, il ne sait pas que ces choses-là arrivent tous les jours, aux applaudissements du monde. Moi, je ne suis ni surprise ni offensée, mais plutôt flattée de ce que vous m'avez dit. Seulement, je dois vous répondre, avec une franchise égale à la vôtre, que j'ai donné à mon pauvre Dumont tout l'amour et toute la jeunesse de mon cœur. Il ne me reste plus qu'une somme de dévouement résigné et d'abnégation mélancolique. Je la dépenserai tout entière au profit de ce grand enfant. Vous croyez voir une femme ici, mon cher Basset, et il n'y a plus qu'une mère, et une mère terriblement vieille, car les années de douleur sont pour nous comme les campagnes de soldats. Elles comptent double. » Il se récria avec une telle vivacité que je crus au premier instant qu'il allait faire des compliments à ma mère. Mais il était homme de ressources et de tact, et il le prouva aussitôt en saisissant la balle au bon. Cet homme, d'épaisse encolure, retourna l'argument de son adversaire avec une dextérité qui m'éblouit. « Ah, dit-il, vous commencez à sentir le poids de la vie. Ah, vous vous trouvez faible et fatigué. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Je le sais bien, et ce n'est pas moi seul qui vous vois dépérir. La ville entière parle de vous comme d'une personne qui s'éteint. Et pourquoi vous en allez-vous, chère madame Dumont ? Tout le monde le sait et le dit, parce que vous êtes désœuvrée, vous si active et si vaillante autrefois. Parce que vous vivez seule, après avoir conduit et dirigé tout un monde dans une grosse maison. Moi qui vous ai connue au bon temps, je sais ce que vous abattiez d'ouvrage sans avoir l'air d'y toucher, et je comprends qu'il vous en coûte de vivre à l'étroit, les bras croisés, comme une statue dans sa niche ou une momie dans sa boîte. Encore avez-vous eu jusqu'à présent quelques heures d'occupation par semaine, grâce au brave enfant que voici. Vous alliez le voir, il venait, ses succès vous rendaient heureuse, ses petits écarts de conduite exerçaient votre autorité. Tout ce qui se rapportait à lui, jusqu'au raccommodage de ses hardes, entretenait en vous, comment dirais-je, le sentiment et le goût de la vie. Mais le voici qui s'en va, ce fils unique. Il vous quitte pour des années à la fin de septembre. Que deviendrez-vous donc sans lui ? Ma mère tressaillit, et Basset, comprenant qu'il avait touché la corde sensible, insista sur la détresse morale d'une veuve séparée de son fils. Il eut le bon goût d'éviter la moindre allusion à notre gêne, mais, tout en nous parlant comme si nous avions eu 10 000 francs de rente, il prouva que ma mère, si elle me suivait, serait plus isolée à Villevieille, à Paris et dans n'importe quelle résidence, qu'elle ne l'était à Courcy. Au moins, dans la petite ville où elle était née, elle avait quelque espoir de rencontrer par-ci, par-là, un visage de connaissance. Mais au chef-lieu du département, mais à Paris, pendant les interminables années d'études et de casernement qui s'allongeaient devant moi, quelque résolution qu'elle prit, soit qu'elle restât sans moi, soit qu'elle s'en vint à ma suite, elle serait seule partout. Elle mourrait d'isolement et de tristesse. Un mariage honorable, approuvé de tous, pouvait la rattacher au monde et à la vie. Hors de là, point de salut. Tandis que notre ancien contremaître exposait ses raisons, il se faisait en moi un grand écroulement de projets et d'espérances. Toutes mes ambitions s'en allaient à volo, comme les pièces d'un navire échoué sur le roc. Ces belles choses que mon père avait rêvées pour moi, le collège royal, l'école polytechnique, les ponts et chaussées, les fonctions, les honneurs, les dignités que mes maîtres me montraient de loin et que j'escomptais en esprit depuis plusieurs années, avec la confiance intrépide des enfants, s'évanouirent en quelques minutes à la lumière du devoir. C'est ainsi que l'on voit les lambeaux épars de la brume se fondre au premier regard du soleil. Dans un moment qui fut et qui sera le plus solennel de ma vie, je devins homme. J'immolais toutes les grandeurs que mon père m'avait promises aux obligations que le pauvre papa la France m'avait rappelées. « Après tout, disais-je en moi-même, il n'est pas strictement nécessaire que le petit-fils d'un paysan et le fils d'un maître charpentier deviennent ingénieurs des ponts. Si la chaîne était allongée d'un anneau, si les brillantes destinées auxquelles j'aspirais hier ne devaient échoir qu'à mon fils, l'éternelle loi du progrès ne serait pas abrogée pour si peu. Ce qui importe au mien et à moi-même, c'est qu'une vieille famille d'honnêtes gens ne reste pas sans chef. C'est surtout que ma mère, après une vie de bonté, de dévouement et de sacrifice, ne reste pas à l'abandon. Elle n'a plus que moi. Sa santé n'est pas brillante. Nos parents, nos amis, les indifférents eux-mêmes assurent qu'elle mourra bientôt si je m'en vais. Elle ne dit pas le contraire. Ma place est donc auprès d'elle, et coûte que coûte, il faut rester. Ma résolution prise, un grand calme succéda à tous les mouvements impétueux qui m'agitaient, et j'écoutai froidement ce que Basset avait encore à nous dire. Il parla longtemps et très bien, si bien que ma pauvre mère fut 10 fois sur le point de fondre en larmes au tableau des douleurs qu'il lui prophétisait. Lorsqu'il eut péroré tout son sou, je lui dis d'un ton cordial « Bravo, mon vieil ami, tu parles d'or, mais ne te mets plus en frais d'éloquence. Tout ton raisonnement se repose sur une erreur de fait. Maman ne sera jamais seule, pas plus qu'elle n'aura l'ennui de se dépayser avec moi. Je reste. Mes études sont terminées, à mon sens, car je suis capable de gagner modestement ma vie, et j'entre en possession d'un emploi le 1er septembre prochain. Ne cherche pas. C'est M. Simoneau qui m'a engagé. Il a ma parole et j'ai la sienne. La fabrique n'est pas une carrière brillante, mais baste. Un garçon de ma trempe y trouvera le pain quotidien et quelque chose de plus. » Je t'étonne. Et maman elle-même ouvre de grands yeux, car elle n'était pas dans le secret. C'est la première nouvelle qu'elle en a. Vous voilà informés l'un et l'autre. J'ai fait d'une pierre deux coups. » Ma mère se leva, fort émue, et sans plus s'occuper de Basset que s'il avait été en Chine, elle vint me prendre les mains. « Pierre, s'écria-t-elle, je ne te demande pas si tu dis la vérité, tu n'as jamais menti. Mais as-tu réfléchi avant de t'engager de la sorte? Sais-tu ce que tu sacrifies? Sais-tu ce que tu prends? Tu n'as pourtant pas oublié les volontés de ton père? » Non, mais papa la France m'en a signifié d'autres, bien plus conforme à l'état de nos affaires. Il m'a institué chef de famille. En cette qualité, c'est bien le moins que je dispose de moi-même. » Mais malheureux enfant, tu n'es pas même bachelier. » Et je ne le serai jamais, selon toute apparence, quoique je me promette bien d'aller tous les soirs au collège et d'y parfaire mon éducation. Tu n'auras pas à rougir de moi, je te le jure. Mais à quoi me serviraient tous les diplômes universitaires lorsque j'ai fait mon deuil des emplois du gouvernement? Tu as raison, s'écria Basset, et ce n'est pas moi qui jamais t'ai poussé sur le pâturage où ruminent les fonctionnaires. Les métiers les plus libres sont les meilleurs. Du reste, on ne fait fortune que dans cela. J'aurais voulu te voir succéder à ton père. On en a décidé autrement, et savant comme te voilà, tu croirais descendre en montant sur les toits. Mais puisque tu veux être commis, en attendant mieux, pourquoi donc ne le serais-tu pas de préférence chez un entrepreneur qui t'estime et qui t'aime? Tu n'es pas faïencier pour un liard, tandis que la charpente, ça te connaît. J'ai justement besoin d'enrôler un jeune homme lettré et de bonne manière, capable de défendre mes intérêts à coups de plume et à coups de bec contre les ingénieurs du chemin de fer. Il paraît que je ne sais pas m'expliquer, que j'ai la tête trop près du bonnet, que je commence toujours par casser les vitres et que ce n'est pas la bonne méthode. Avec un secrétaire et un ambassadeur comme toi, j'économiserai à la fois ma bile et mon argent. » Tu me flattes, Basset, mais tu ne me débaucheras pas. J'ai la faïence en tête. Qu'est-ce qu'il pourra bien te payer, ton vieux ladre de Simoneau? Mon patron n'est pas un prodigue, d'accord, mais c'est un homme juste, et quoique nous n'ayons pas encore traité la question d'argent, j'espère bien gagner 50 francs par mois d'entrée de jeu. Je t'en offre le triple. Ce serait trop cher. Et comment l'entends-tu? De toutes les manières. » Ma mère ne lui laissa pas le temps de méditer cette réponse péremptoire, et de sa voix grave et posée, elle conclut pour elle et pour moi. « Maintenant, mon cher Basset, nous avons dit tous les trois ce que nous avions à dire. Si j'accepte le sacrifice de cet enfant, c'est que je suis bien décidée à ne changer ni d'état ni de nom. Vous voyez devant vous deux personnes profondément touchées de votre amitié et sensibles à vos généreuses intentions, mais capables de se suffire et résolues à vivre exclusivement l'une pour l'autre. Imitez-nous. Arrangez votre vie à part. Vous avez la fortune, il ne nous reste plus, en vous disant adieu, qu'à vous souhaiter le bonheur. » Le pauvre garçon étouffa un sanglot, et ses yeux se gonflèrent de larmes. « Suffit, dit-il, on sait ce que parler veut dire. Il ne vous manquait plus que de me mettre à la porte, et j'y suis. Ma démarche méritait mieux, madame Dumont, et vous n'aurez ni à vous plaindre, ni à vous étonner, si je me venge de vos refus. » Je m'étais déjà élancé entre ma mère et lui. Il m'écarta de sa puissante main et poursuivit. À toi aussi, gamin, je te déclare que je me vengerai. Comme un honnête homme et un digne ouvrier peut se venger d'une femme et d'un enfant. Je veillerai sur vous, je vous protégerai malgré vous. Et malgré vous, je remplacerai, dans la mesure du possible, mon très regretté maître. Je ne suis pas seulement le successeur de Pierre Dumont, je suis son débiteur et le vôtre. Il n'y a ni loi, ni puissance, ni autorité qui m'empêche de pratiquer à votre profit les maximes que le patron m'a enseignées. Je n'ai point, je n'aurai jamais d'autre famille que la sienne. Prenez-en votre parti l'un et l'autre. Serviteur, Madame Dumont, bonjour, petit. Cela dit, il ramassa son chapeau neuf et sortit en battant les portes. Je tombai aux genoux de ma mère et je lui dis « Chère maman, que je te remercie d'aimer mon père mort comme tu l'aimais vivant. » « Il n'y a pas de mérite à cela, » répondit-elle. « Mais quand donc nous laissera-t-on tranquille dans notre obscurité ? Je voudrais bien avoir les cheveux blancs. »